BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est quelqu'un qui voit son titre de bourse chuter de plus de 20%. Bonsoir Véronique Bédague.
Bonsoir Edwige Chevrillon, je suis ravie d'être avec vous ce soir.
Merci d'être là. Vous êtes donc la patronne, la PDG de Nexity, le premier promoteur immobilier français. Et effectivement, après l'annonce de vos résultats et peut-être aussi ou surtout de la suspension de votre dividende au titre de 2023, vous avez perdu plus de 20% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Vous attendez une telle chute ou comment vous l'expliquez ?
Écoutez, moi je pense qu'on est leader sur un marché qui a reculé, enfin c'est quand même, les chiffres sont très intéressants, de 40% en deux ans. C'est-à-dire qu'avec la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la production de prêts immobiliers, nous intervenons sur un marché qui s'est replié de 40%. Et c'est au fond les conséquences de ce retrait que l'on voit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est vraiment au creux de la crise et qu'on commence à voir quelques lueurs, au fond, importantes. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont se déclencher, mais à l'évidence, il va y avoir une baisse des taux d'intérêt. Sur le journal de BFM Business, on voyait que, au fond, l'inflation en France et aux États-Unis était meilleure que prévu. Donc, à un moment, les taux vont commencer à baisser. Les analystes pensent que, de l'ordre de 1 point cette année, 1 point, c'est 10% de pouvoir d'achat de mieux pour nos clients. C'est vraiment énorme. Et puis, vous savez à quel point j'ai pu être critique dans le passé, mais mon sentiment, c'est que vraiment, le gouvernement a pris la mesure de la crise et de l'impact de cette crise, surtout sur l'emploi et sur les Français.
Ce qui n'était pas le cas avant ?
Vous savez bien que non, ça n'était pas le cas avant, ou pas dans ces proportions. Le Premier ministre a mis le logement en priorité dans sa déclaration de politique générale. Ça n'était pas arrivé depuis 7 ans.
On va aller chercher avec les dents.
Oui. Voilà. Non, mais ça dit quand même quelque chose. Et puis, on a un ministre du logement qui est vraiment, je pense, aujourd'hui, complètement en phase avec les diagnostics que l'on fait sur les besoins, sur les causes de la crise de la demande et sur la crise de l'offre.
Véronique Bédague, on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail quand même. Juste par rapport à vos résultats, vous disiez, notre marché, là, on est premier promoteur immobilier, donc vous prenez tout de plein fouet, évidemment. Bon, si je regarde votre résultat net, il a chuté de 82%. Donc là, vous avez doublé, si j'ose dire, la baisse du marché.
Oui, mais le résultat net, c'est moins significatif que le résultat opérationnel qui, lui, a baissé d'un tiers. Et je vous rappelle que nous avons fait ce que nous avons dit en 2023. Nos résultats sont au rendez-vous. On avait dit qu'on se désendettait, on avait dit qu'on accélérait sur la régénération urbaine et sur l'exploitation. On a fait tout ça. Notre dette, qui était très regardée, était inférieure en cette fin d'année par rapport à l'année précédente.
Oui, et puis vous avez annoncé un plan social, on y reviendra là aussi. Juste encore un point, est-ce que pour vous, votre chiffre d'affaires, donc lui, il a baissé de 9-10% à 4,27 milliards à peu près, est-ce que vous attendiez quand même, quand je vous disais vous attendiez à une telle chute, est-ce que c'est la suspension du dividende qui explique tout et pourquoi avoir fait, j'ai envie de dire, ce choix-là ? Parce que c'est un choix qu'on... Là, tous les résultats sont en train de tomber. Je pense que vous êtes la seule aujourd'hui, enfin la seule figure cotée.
Mais de nouveau, on est, nous, complètement en bas de la crise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de suspendre le dividende ? Parce qu'on a d'abord un objectif de désendettement, très important dans le moment. Et deuxièmement, on a décidé de lancer dans les prochaines semaines une consultation avec nos organisations syndicales sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Et vous savez très bien que dans une entreprise, les bonnes pratiques consistent à faire partager à la fois par les salariés et par l'actionnariat.
Oui, enfin, c'est pas une bonne pratique qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, hein, quand même. Au contraire, certains disent il faut plutôt augmenter les dividendes pour fidéliser notre actionnariat.
Écoutez, le choix qu'on a fait, c'est de partager l'effort et de nous désendetter. C'est un choix qui était dans le marché, on l'avait dit. On l'avait dit depuis la fin de l'année que c'était le choix qu'on allait faire.
Ça vous fait une économie de combien ?
À peu près 140 millions.
Oui, donc évidemment, c'est quelque chose d'important. Est-ce que cette crise de l'immobilier, vous avez dit, c'est une crise de l'immobilier inédite ?
Oui.
Par son ampleur, oui. Et par aussi toutes ses ramifications, en fait. C'est un choc d'offres. Et un choc de demande aussi. Qu'est-ce qui, pour vous, vous a le plus percuté ? Les mises en chantier ?
Au fond, c'est une tempête parfaite. Ça touche l'immobilier de bureau, Il y a une suroffre du bureau compte tenu de ce qui s'est passé, des changements d'habitude. Et puis, il y a eu, au fond, un retrait très important des prêts immobiliers. Donc, c'est une crise qui est à la fois logement et bureau. Les grands anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est une crise de l'offre, puisqu'on a malgré tout toujours des problèmes pour obtenir des permis et pour densifier les villes, alors même que, vous le savez, il y a une politique de protection au fond des milieux et donc de moins d'artificialisation. Et puis on a ce problème, effectivement, de demande qui est très important. Donc en fait, on a tout.
Vous dites on est au creux de la crise. Pourquoi vous avez cette dose d'optimisme? Vous me direz aujourd'hui, ça vous fait du bien, Véronique Bédague.
Non, là, pour le coup, je pense que je n'ai jamais été pessimiste ou optimiste. Vous pouvez me rendre cela que j'ai au fond dit les choses comme elles étaient à chaque fois. Là, ce que je vois, c'est que les taux d'intérêt vont baisser. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça commence. Ouais. Et on a quand même un consensus sur le fait que ça pourrait baisser de 1 point. Un point, c'est énorme. Les Français ont perdu 25% de pouvoir d'achat en 2 ans. Si cette baisse intervenait, on récupérerait 10% de pouvoir d'achat, la moitié. Et puis, n'oubliez pas qu'en 22, 23 et 24, les salaires ont augmenté. Et l'augmentation moyenne des salaires a permis aux Français de récupérer la moitié de ce pouvoir d'achat immobilier qu'ils ont perdu à cause de la hausse des taux. Donc, on commence quand même à voir des choses plutôt positives.
Est-ce que vous pensez que, notamment les banquiers centraux, ils ont mal anticipé l'impact de cette hausse des taux, notamment sur la production de crédit immobilier? Parce que la chute, elle a été extrêmement forte en 2023. Oui, elle était de 40%.
De 40%, et puis elle est générale en Europe. Je pense que le problème de la politique monétaire, c'est que c'est très, très compliqué à monitorer. C'est-à-dire que les effets, d'abord le temps d'arriver sur l'économie et l'ampleur, ne sont pas mécaniques.
Oui, quand vous dites qu'on est au creux de la crise, je veux bien, mais en même temps, quand on regarde sur 2024, donc pour vous, le creux de la crise, c'est aujourd'hui, donc devant vous, vous avez encore toute l'année 2024. Lorsqu'on voit le taux de réservation, par exemple, chez vous, Nexity, on a de quoi s'inquiéter?
Vous ne voyez que 2023 à ce stade, sauf erreur de ma part, vous ne voyez pas 2024.
Oui, mais 2024 ne sera pas meilleur.
C'est une bonne question et je pense que nous, à ce stade, on fait l'hypothèse que ce sera...
C'est une logique, c'est pour ça que je vous pose cette
question.
Comme
2023, parce qu'on est prudent, mais dès qu'il y a un peu de baisse de taux d'intérêt, dès qu'il y a un mouvement un peu palpable du gouvernement, les choses peuvent reprendre. D'ailleurs, on sent un peu de reprise là sur la vente. Alors, c'est pas... mais on sent un frémissement. Et puis, les Français ont juste besoin de se loger.
Est-ce que lorsque vous voyez tout ce qu'en font les... Tout ce qu'on donne, on fait, et à juste titre, tout le gouvernement fait pour les agriculteurs, vous n'êtes pas en train de vous dire, un peu comme commence à dire, les gens du BTP qui vont être impactés d'une manière très très forte, ça nous fera le lien vers le plan social que vous préparez. On dit qu'il y a 300 000 personnes aujourd'hui dans le BTP qui pourraient être licenciées avec l'impact de cette crise de l'immobilier. Est-ce que vous trouvez qu'il serait temps que le gouvernement, vous avez dit, je sens quelque chose, mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement?
Alors, vous avez raison, quand on voit ce qui se passe sur les agriculteurs, évidemment, il y a des moments où on se dit...
Et pourquoi pas nous ?
L'effet des normes, ça je le reconnais, ouais. Et je pense que les agriculteurs ont aussi les normes européennes que nous, on a un peu moins. Et puis, évidemment, nous, on se dit que ce qu'il faut vraiment faire, et ça, je pense que le gouvernement l'a entendu, ce qui vraiment s'effondre le plus, c'est l'investissement des particuliers en logement. Tout simplement parce que la hausse d'intérêt... Mmh. a rendu ce placement moins intéressant. Et c'est ce qui a le plus chuté l'année dernière. L'année dernière, cette partie-là du marché s'est effondrée de 50%. Donc moi, je comprends. Et effectivement, le retrait du Pinel en même temps, une mesure procyclique, ça a vraiment accéléré la chute de l'investissement en immobilier. C'était une mauvaise décision, mais ça, on l'a dit plusieurs fois.
Je ne sais pas si vous avez vu ce coup de gueule de votre homologue de Altarea, Jacques Herman, qui parle à propos de Bruno Le Maire et qui dit que c'est un peu l'anti-arroseur arrosé, parce que il dit que Bruno Le Maire cherche 10 milliards d'économies, mais en fait, il suffisait non pas d'arrêter de ne pas supprimer le Pinel, de peut-être d'arroser un peu le secteur du logement pour permettre la vente de logements. Il aurait gagné 2 milliards en plus de TVA. Est-ce que vous partagez ce raisonnement? Est-ce que le fait que le gouvernement considère que le logement coûte trop cher et donc toujours un peu sabré, la preuve, la fin du Pinel, dans le secteur de l'immobilier, finalement, aujourd'hui, ça lui retombe dessus?
Là, je dirais les choses différemment. Je dirais ce que j'ai dit au fond au ministre que j'ai pouvoir. Moi, quand j'étais à Bercy, il y a fort longtemps, on se méfiait beaucoup des économies qui coûtent. Vous savez, les économies qu'on brandit, etc. Ouais. Puis on l'a fait, puis hop, derrière, eh ben, cette économie coûte. Moi, je prends c'est que l'économie sur le Pinel, c'est une économie qui coûte. Effectivement, le gouvernement voit des pertes sur la TVA. Ben oui, c'est normal, puisque nous, on lance moins de chantiers. Il va y avoir beaucoup de pertes d'emplois dans le BTP. À mon avis, à peu près 300 000. C'est écrit maintenant. Hein. C'est les réservations de l'année dernière. Il n'y a pas de réservation. Il n'y aura pas de chantier. 150 000 à peu près sur le collectif, 150 000 sur la maison individuelle. Donc
300 000 dans le BTP.
Mais bien sûr.
Ouais.
Et c'est écrit. C'est mécanique.
Ouais.
Donc je pense que tout ça fait que effectivement, et je pense qu'il y a des pistes de réflexion aujourd'hui. Moi, je vais beaucoup au Parlement. Franchement, à la fois l'Assemblée nationale, au Sénat, les députés sont vraiment au clair sur ce qui se passe. Je comprends qu'il y a des réflexions sur le statut du bailleur privé, qu'il y aurait des réflexions sur la proposition faite par la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est la fameuse mesure Balladur. Si vous achetez un logement neuf, vous pouvez le transmettre sans droit de succession. Je pense que des réflexions ont lieu en ce moment.
Oui, mais vous,
sur ce sujet-là.
Vous, Véronique Béda, puisque vous dirigez encore une fois le premier promoteur immobilier, que vous avez été à Matignon, quand vous aurez proposé Matignon, je sais que vous détestez qu'on dise ça, mais voilà, quand même, ça montre que vous avez une vision peut-être un peu plus générale. Est-ce que ce serait quoi, là ? Demain, vous êtes nommé ministre du Logement, vous êtes nommé à Matignon, c'est quoi vos trois mesures pour sortir de cette crise ?
Je pense qu'il faut vraiment traiter le sujet de l'investissement locatif.
Mais comment ? On remet à Pinel ou quoi ?
La mesure qui convient au gouvernement. L'essentiel, c'est de ramener du rendement. Le problème de l'investissement locatif aujourd'hui, c'est des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, donc forcément. Et puis quand même, derrière, vous avez une fiscalité qui est quand même très spécifique, on va dire. Vous avez de l'impôt sur le revenu. Vous avez une taxe foncière qui augmente quand même de 7% par an en ce moment. Il n'y a aucun autre placement en dividende ou en obligation
qui résiste à ça.
Et si vous avez survécu aux deux premiers, vous pouvez éventuellement tomber sur le coup de l'IFI. Donc ça n'est pas juste. Ça n'est pas. Enfin, il faut ramener une concurrence juste entre l'investissement en logement, l'investissement en obligation ou en action. Pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Oui, mais
c'est ça qui doit être fait tout de suite.
Oui, mais une question un peu de béotienne, et je m'en excuse. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le logement a toujours besoin d'être subventionné ?
Parce qu'il est surfiscalisé.
C'est ça, donc à la limite, il faudrait...
Le logement, il est
défiscalisé.
Et d'autre part, je vous rappelle que son rendement est contrôlé. C'est-à-dire que les loyers sont soit bloqués, soit... voilà. Donc, au fond, c'est un investissement qui a des caractéristiques particulières.
Il faudrait construire combien de logements neufs ? Parce qu'en plus,
alors, c'est une très bonne question, parce que vous vous souvenez, en ouverture du CNR,
Conseil national de refondation
logement,
sur le logement que vous présidiez, du reste
avec Christophe Robert
de la Fondation L'Abbé Pierre.
La représentante du Trésor avait dit bon voilà, selon nos calculs, il faut 200 à 250 000 logements neufs par an. Bon là, on va y être, on va voir ce que ça donne à la rentrée 2026. Là, il y a un progrès. Moi, je constate que les chiffres qui sortent aujourd'hui sont bien. Alors, il y a plein de sources. Il y a l'USH, évidemment. Il y a aussi la Caisse des dépôts qui avait fait une étude il y a quelques mois. Il y a désormais, il y a quelques jours, le Conseil national du logement, qui est un organisme présidé par un député de la majorité auprès du ministre de logement, qui dit « on a bien tout regardé, il faudrait maintenant 450 000 nouveaux logements, donc neufs ou rénovés par an ». Donc, je pense qu'on est quand même en train de se rendre compte qu'il y a un problème de logement dans ce pays.
Il y a une chose que je ne comprends pas, vous êtes plutôt optimiste, on est au creux de la crise, hein, vous venez de nous le dire, vous voyez plutôt des chiffres, des événements positifs comme une baisse des taux éventuels, des mesures prises par le gouvernement. Pourquoi vous avez décidé d'engager ce plan de sauvegarde de l'emploi ?
Parce que
si vous y croyez...
J'ai été la première à alerter sur la crise. Vous vous souvenez, c'était en 22. J'avais dit, attention, ce qui est en train de se dessiner va être vraiment extrêmement violent. On m'avait trouvé pessimiste à l'époque. Mais moi, je vais être aussi la première à me transformer, à transformer l'entreprise. Parce que là, pour le coup, ma conviction, c'est qu'en sortie de crise, notre métier ne sera pas le même qu'en entrée de crise. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de réorganiser mon entreprise. D'abord, pour qu'elle colle davantage au territoire.
Nouvelle organisation.
Vraiment, et je pense que c'est de plus en plus vrai, on n'intervient pas dans le sud de la France comme dans le nord ou dans l'ouest. je vais demander à mes patrons d'être capables de construire plein de produits différents, pas simplement du logement ou du bureau. Et donc, c'est cette réorganisation que je suis en train de faire. Et dans la réorganisation, évidemment, on va s'adapter au nouveau marché. Le marché a perdu quand même à peu près 40% depuis 2 ans. Nous, on n'est qu'à 30%. Il faut évidemment que je redessine mon entreprise. On ne va pas regagner 40% de marché en 6 mois.
Oui, mais alors, vous avez, à ce jour, vous avez 8200 salariés. Parmi eux, il y a 3100 salariés qui devraient sortir du groupe au mois d'avril, puisque vous avez vendu votre filiale d'administrateur de biens. Donc là, on n'est plus qu'à 5000, hein, 5100. Vous dites, j'ai eu 30%.
Il n'y a pas que de la promotion à l'intérieur, oui.
Oui, donc quoi, il faut réduire les effectifs du 30%, c'est à peu près ça?
Non, c'est pas, heureusement, ça n'est pas, d'abord, ces chiffres-là comportent encore des services, et puis ça n'est pas si mécanique que ça. Vous savez qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement exigeant. On vous demande de décrire tous vos organigrammes et tous vos modes de fonctionnement. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, on saura de combien nous allons sur combien d'emplois vont porter.
Mais votre objectif, quoi, c'est 5000 salariés pour...
Non, j'ai pas d'objectif.
Au nouveau, Nexity, recalibré avec la vente de l'international,
je ne vais pas faire à la tête de mon entreprise. Ce que je reproche à d'autres de faire, c'est d'y rentrer 2 chiffres dans un tableau Excel et dire bonjour, le résultat, c'est ça. Ça, vraiment, je pense que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je suis vraiment en train de me poser avec mes équipes pour dire voilà, on bascule sur un autre mode de fonctionnement, et puis ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez et des marchés, et on en tirera les conséquences en termes d'emploi d'ici quelques semaines.
Et vous pouvez pas, comme font certains de vos concurrents, mais peut-être redéployer vos forces?
Écoutez, on verra, mais pour l'instant, j'ai moins de services. La proportion quand même de la promotion et de tout ce qu'on fait en opérateur urbain est très important dans mon équipe. Donc tout ce qui pourra être fait sera fait.
Si c'était un plan qu'il fallait qualifier, ça serait un plan massif, ça serait un
un plan d'ajustement au marché et un plan qui va traduire, vous le verrez quand on le sortira, la transformation de Nexity. On va, nous, vraiment sortir de la crise prêts pour les nouveaux marchés de la vie urbaine qui vont vraiment être différentes. Le fait qu'on soit vraiment sur de la régénération urbaine, sur du cœur de ville, sur de l'amélioration des entrées-villes, eh bien, ça n'est pas le même métier.
2024, en un mot, un adjectif, un qualificatif, oui.
Eh bien, c'est le moment de la transformation. Je sens vraiment cette année-là pour nous comme celle de la chrysalide.
Est-ce que c'est le moment de racheter des titres? Est-ce que vous allez racheter des titres? Vous, est-ce que Alain Dinin va racheter des titres? Est-ce que c'est le moment de racheter des titres?
J'en ai racheté ce matin.
Ah bon? Ben c'est un signe de confiance.
Mais oui, mais j'y crois, mais bien sûr, mais bien sûr, mais évidemment.
Merci d'être venu aujourd'hui avec ce cours de bourse qui est un peu trinqué, on peut le dire comme ça. Mais comme vous dites, on est au creux de la vague, donc évidemment, vous espérez que 2024 sera mieux. Merci beaucoup, Véronique Bédague, donc la présidente de Nexity, premier promoteur immobilier.